C'est de guérison et de réussite personnelle que nous allons parler aujourd'hui. Isabelle Lefebvre fait partie de celles et ceux qui, malgré le verdict des médecins, ont décidé de changer l'histoire. Elle est à elle seule le témoignage que lorsque nous voulons nous en sortir, le mental peut changer l'impossible en possible. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nancy.
Merci d'être là avec nous, tu es au Québec, c'est le matin chez toi, nous c'est l'après-midi, quel plaisir de t'avoir, surtout que j'ai lu dans ton message tout à l'heure qu'on a le même vocabulaire, moi qui suis belge, même si je suis en région parisienne, je dis comme toi « à tantôt » et j'adore ces expressions. Isabelle.
On a un bon point commun.
Ah oui, on a beaucoup de points communs. J'ai lu ton livre, 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Tu m'as aidée, tu n'imagines même pas à quel point, à compléter un travail que j'avais commencé depuis des années. Je devais passer à un autre niveau, il restait un blocage dans ma culture du bonheur personnel. Et je suis vraiment très heureuse de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu vas inspirer beaucoup de monde. Isabelle.
Eh bien, ça me fait plaisir d'être là, merci de m'avoir invitée Nancy.
C'est normal parce que vraiment, ce que tu nous apportes est énorme et très très positif. Pour cela, on va se replonger dans ton histoire et j'aime toujours commencer par l'enfance parce que finalement, c'est l'enfant qui est en nous qui construit l'adulte que l'on devient. Raconte-nous tes rêves et d'où tu viens.
Et tu me poses toute une question. Eh bien, je viens d'une petite région dans le nord du Québec pour laquelle j'ai toujours habité jusqu'à, je dirais, là, 2 ans. Et j'ai eu une enfance au grand public parce que ma mère avait une boutique de produits naturels. Alors, moi, j'ai grandi dans cette boutique-là où est-ce que j'ai appris tout sur la vie, je dirais. Ça a été beaucoup de moments, justement, grand public, oui, parce qu'on était la famille qui était exposée. Les gens nous voyaient grandir, je dis nous parce que j'ai un frère et une sœur, donc nous voyaient grandir dans la boutique parce qu'on suivait, on suivait notre mère. Et ça a été beaucoup de moments qui se sont passés dans cet univers-là, je te dirais, où est-ce que c'est là que je suis tombée en amour avec le fait aussi de devenir entrepreneur et où est-ce que j'ai appris les rudiments du métier.
Génial! Donc tu voulais devenir entrepreneur, tu savais déjà de quoi?
Je voulais, longtemps j'ai voulu reprendre la boutique de ma mère et qu'elle a eu pendant 31 ans et finalement, les choses ne se sont jamais placées pour que je reprenne les rênes de la boutique. Et j'en ai fait une version améliorée, je dirais, avec ce que je fais aujourd'hui. C'est la suite logique de ce que ma mère a commencé. Elle était très avant-gardiste et puis j'ai suivi la voie simplement sous une autre forme parce qu'on est rendu en 2020 et que dans les années 80, c'est en 1986 que ça a commencé, eh bien, c'était un contexte complètement différent.
Tout à fait. Alors, tu as parlé, ça n'était pas aligné. C'est vrai que c'est important l'alignement, tu en parles dans ton livre, mais si ça ne s'est pas fait sur le moment, c'est parce qu'il y avait des raisons. Il y a toujours des raisons quand les choses ne se font pas. Toi, tu devais passer d'abord par une épreuve qui a changé ta vie parce qu'à un moment donné, bah, tu as décidé de ne pas te laisser abattre par cette épreuve. À l'âge de 18 ans, ton médecin t'a affirmé que la chaise roulante t'attendait. Et j'aimerais comprendre comment tu as fait pour te sortir de cette souffrance qui t'a submergé à l'époque et comment tu as trouvé des ressources pour finalement arriver à changer le mal en bien.
Les réponses ne sont pas venues du jour au lendemain. Je pourrais dire qu'il y a eu des points de bascule. Et entre le moment où est-ce que, bon, le médecin m'a dit que la chaise roulante m'attendait, automatiquement, j'ai refusé cette option-là. Je me suis dit, OK, c'est ce que la médecine traditionnelle m'offre comme option.
C'était quoi déjà cette maladie?
La polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une maladie qui amène une dégénération au niveau des articulations et des limitations physiques, des handicaps et finalement, la chaise roulante pour certaines personnes chez qui c'est hors de contrôle. Et donc, c'était l'option qui était sur la table à ce moment-là. J'ai dit non. Moi, j'étais une athlète. Je joue au basketball et du jour au lendemain, il a fallu que j'arrête complètement mon sport. Et c'est le sport qui m'a vraiment sauvé la vie à cette époque-là parce que même si j'ai eu une super belle enfance, il y a quand même eu des difficultés au niveau familial. Et à partir de là, quand la maladie s'est déclarée, eh bien, j'ai fait, OK, si la médecine traditionnelle n'est plus une option, je dois aller voir au niveau des médecines alternatives. Et comme ma mère était déjà dans les produits naturels, j'avais déjà une ouverture vers tout ce qui est le monde de la spiritualité, l'ésotérisme. Alors, j'ai vraiment basculé là-dedans pour commencer à trouver des réponses. Je dirais que ma vingtaine a été une décennie où est-ce que justement, vraiment, j'étais vraiment dans les livres, j'étais vraiment comme un rat de laboratoire. La quête de sens avait commencé, je devais trouver un sens à tout prix à ce que je vivais. Et c'est ce qui m'a maintenue en vie, à vrai dire, parce que il y a un moment où je voyais vraiment plus la lumière au bout du tunnel. Et la seule chose qui m'a maintenue en vie, c'est, j'ai une lecture que j'ai faite, je ne sais plus où, ni quand, ni comment, mais ce que ça disait, c'est si je ne passais pas au travers dans cette vie-ci, j'allais être obligée de revenir et repasser à travers tout ça, et possiblement pire, parce que justement, je l'aurais pas réussi du premier coup. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment l'élément sur lequel je me suis accrochée et je me suis dit non, je vais relever le défi dans cette vie-ci, il n'est pas question que je revienne une deuxième fois, c'est trop souffrant.
Parce que tu crois au karma.
Oui, complètement, complètement. Et je sais aussi que c'est ma dernière vie parce que j'ai assez donné.
Oh ben celle-là, tu l'amènes bien. Hein? Parce que donc oui. Là, on t'annonce la maladie, tu te sombres quand même dans la dépression, tu en parles dans ton livre.
Oui, 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 complètement, complètement. Et je ne pensais pas ressortir de là. Et finalement, ce qui a été le plus gros point de bascule, c'est quand j'ai trois enfants. Donc, quand j'ai eu ma fille, ma première, eh bien, ça a été pour moi l'élément marquant parce que je la voyais grandir. Et puis, je me rappelle une certaine scène où elle avait 2 ans et elle a piqué une de ses colères. Mais j'ai répliqué avec la même intensité de colère. Et là, j'ai vu à travers ma fille propre reflet. Et j'ai vu, j'étais en train de lui transmettre tout ce que j'avais, que je portais, puis qui était à ce moment-là très inconscient comme colère, mais le voir à travers elle, ça m'a permis de réaliser que si je me transformais pas pour hier, parce qu'il y avait vraiment une urgence de me transformer, plus que j'allais lui transmettre tout ce que je voulais pas, et elle allait se retrouver avec finalement mon bagage. Et il était hors de question que je lui partage tout le bagage, alors je me suis dit non, c'est maintenant que ça commence. Alors j'ai arrêté de lire des livres, puis je me suis mis à me transformer.
C'est ça, tu es passé de la théorie à la pratique, et ça, c'est vraiment très important.
Oui, et ma trentaine a vraiment été sous le règne de la transformation. C'est vraiment ça, ça a été 10 années très intensives de transformation, où est-ce que j'ai eu 2 garçons aussi à travers tout ça, et j'ai abordé ma quarantaine dans la guérison, parce qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'ai passé des prises de sang, et puis j'avais vraiment quelques années de transformation là en arrière de la cravate, si on peut dire. Je sais pas si c'est une expression que vous utilisez.
J'adore! Elle parle d'elle-même, en fait.
Oui. Et donc, ce qui est arrivé, bien, j'ai vu le médecin, j'ai vu le rhumatologue et il m'a dit votre maladie s'est rendue inactive. Donc, on n'a plus besoin de se voir. J'ai écrit ça dans votre dossier, maladie inactive. Et pour moi, ça a été OK, je me suis guérie. Le médecin ne pouvait pas affirmer que la guérison était là parce que c'est contre le système médical, mais c'était clair que j'étais guérie. Et depuis ce temps-là, ça fait 6 ans de ça, eh bien, je suis vraiment en quête de reconstruction osseuse complètement parce que je vise à vivre cette reconstruction-là et je marche mon chemin pour aller là parce qu'il reste des limitations physiques qui sont en lien avec la dégénération des articulations qui s'est produite pendant 20 ans. Donc, je crois profondément que tout est possible. Alors, la reconstruction osseuse l'est également.
Tout à fait. Déjà, tu as réussi, aux yeux de la science, à déjouer un petit peu ce qui était écrit au départ, ce que les médecins ne peuvent pas forcément comprendre.
Exactement. Et c'est ce que j'ai eu d'ailleurs comme réponse. On m'a dit, tu dois faire partie du 5% qui sont assez fortes pour s'en sortir. Et j'ai aimé cette réponse-là. J'ai dit, exactement, c'est ça. Et finalement, mais c'est ça. Dans le fond, ce qui a prouvé scientifiquement la guérison, c'est qu'au niveau des prises de sang, il n'y a plus aucune trace de la maladie. Parce que quand on vit avec une maladie inflammatoire, il va y avoir des marqueurs inflammatoires au niveau des prises de sang. Et quand on regarde mes analyses, il n'y a pas de différence entre mes prises de sang à moi et celles de quelqu'un d'autre. Au niveau de la radiographie, on voit très bien que j'ai des articulations qui sont encore déformées pour le moment.
C'est du passé.
Exactement.
Ça a été déformé par la maladie qui s'est arrêtée. Oui. Aujourd'hui, tu es complètement guérie et c'est terminé. Oui. Bravo Isabelle. Je te cherchais en fait. Je voulais un témoignage d'auto-guérison Et tu en es une jolie preuve. Ce qui est bien, c'est que tu en as écrit un livre parce qu'après, tu as décidé d'aider les autres. Mais avant d'en arriver à cette étape-là, tu as eu un énorme cheminement. Combien de temps as-tu mis pour un moment vraiment pouvoir affirmer « Bon ben voilà, je suis guérie, je vais vous aider, vous aussi, à vous élever. »
Ça ne m'a pas pris de temps parce que pour moi, c'était déjà là. Et puis, je suis sortie du médecin avec la validation de ce que je voulais entendre. Puis, je l'ai juste partagé au fil du temps comme ça se présentait, mais mon chemin comme coach était déjà amorcé. J'avais déjà cette quête-là de vouloir aider les autres. Ça s'est juste ajouté dans mon chemin, mais je marchais déjà ce chemin-là. Au moment où je l'écris, c'est comme si ça venait clore une certaine première étape de vie.
Et je te le disais, on a des points communs parce que moi, je l'ai clôturé, mon livre, justement après avoir lu le tien. Incroyable. J'ai senti que c'était le moment qu'il fallait le terminer. Et puis, à ce moment-là, tout s'est ouvert pour réaliser mon podcast qui tombe pile poil dans un moment où on peut tous ne pas avoir le moral et en fait on doit être absolument dans l'acceptation pour pouvoir continuer à aller de l'avant, continuer à être heureux. Et toi, ce que tu véhicules, c'est des messages comme ceux-là, des messages de développement personnel. C'est très à la mode, mais il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas cela. Donc toi, tu as envie d'être comme Louiset et toutes ces figures du développement personnel. Est-ce que tu peux nous donner les clés de la réussite? Parce que déjà, la réussite pour guérir, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à un moment donné à passer outre de la souffrance et tu l'exprimes très bien dans ton livre, mais si tu devais le résumer en quelques phrases. Et puis la réussite professionnelle aussi, parce que tu nous parles clairement de liens de cause à effet et tu nous dis qu'on peut amener la réussite dans sa vie professionnelle au niveau aussi des finances.
Oui, ben tout est lié en fait. Alors, je vais répondre à ta question, Nancy, mais je veux juste te partager le petit élément cocasse ici. C'est que moi, je suis à la fin de l'écriture de mon deuxième livre actuellement. Alors, je vais compléter la fin, l'écriture de mon livre dans les prochaines semaines. Donc, au moment où on fait ton podcast, mon livre se termine aussi.
C'est génial! Il parle de quoi?
De la relation avec l'argent.
Ah ben voilà! Alors, on commence par d'abord la guérison parce que ça peut intéresser beaucoup de monde et j'ai envie d'influencer sur le pouvoir de l'esprit, c'est important. Hein? Et après, on parlera justement de la réussite financière parce que ça aussi, on en a besoin.
Et c'est là que tout est lié ensemble. Dans la transformation, il y a différentes étapes qu'on a à parcourir et c'est ces étapes-là qui vont faire justement que la réussite va se produire parce que c'est de la transformation. Il y a des étapes, mais il y a aussi des niveaux de conscience. Et la réussite fait vraiment référence à un certain niveau de conscience qui est vraiment aligné avec le succès et aligné avec la contribution. Et c'est quand on atteint ces niveaux de conscience-là qu'on rentre dans tous les possibles et qu'on peut servir l'humanité, j'ai envie de dire.
Comment atteindre ce niveau de conscience quand physiquement on est diminué?
Qu'est-ce que tu veux dire par physiquement on est diminué?
Bah, tu disais toi-même, tu as eu ta maladie, tu as quand même créé certains handicaps.
Oui.
Comment est-ce que tu as fait pour malgré tout t'auto-guérir, en tout cas laisser cette maladie derrière toi en fait? Alors que le médecin te disait que clairement c'était fini puisque c'était une maladie dégénérative et que concrètement il n'y avait pas d'issue, pour la science en tout cas.
Non, effectivement. Mais la première étape de la transformation, c'est là qu'on va trouver la réponse à ta question parce que c'est une étape où est-ce qu'on est dans un niveau de conscience de survie. Et tant qu'on est dans la survie, puis notre cerveau pense qu'on est là pour survivre, eh bien, on est vraiment dans vibratoirement parlant, on va vibrer très bas et on est dans des blessures d'âme. Et notre vie se déroule complètement sous l'influence de ces blessures-là. Alors, si par exemple, on a la blessure de l'abandon, eh bien, on va avoir les lunettes de l'abandon et on va percevoir de l'abandon partout. Alors, les autres nous abandonnent, on abandonne les gens et au final, le plus grand abandon qu'on va vivre, c'est l'abandon de soi-même. Et quand on est au bas fond de la maladie, on est dans l'expression plus grande de ces blessures-là. Et pour sortir de là, on doit marcher le chemin de justement réussir à se libérer de tout ce qui fait en sorte qu'il y a des patterns qui se répètent dans notre vie.
Les patterns, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
Des situations qui vont se répéter, par exemple, en amour, quelqu'un qui a toujours des relations puis qui se termine toujours de la même façon, ça fonctionne jamais, c'est toujours elle qui abandonne ses amoureux, par exemple. Ça peut être du harcèlement au travail, vous changez de travail, le harcèlement continue d'un employeur à l'autre, c'est la même chose qui se répète. Oui.
Mais ça, on le vit tous, ces situations à répétition, tant qu'on n'a pas fait le tour,
exactement.
Ça revient, ça revient, ça revient.
Ça revient tant que les blessures sont actives et dès qu'on apaise les blessures d'âme, eh bien, ça va arrêter complètement. Et ça a pris du temps pour moi de comprendre ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai développé des clés d'alignement pour justement arrêter ces blessures-là de venir influencer le jeu. Parce que pour moi, la vie, c'est comme un jeu. On est vraiment comme sur un jeu d'échecs, si on veut. Mais s'il y a une blessure d'âme qui est active, eh bien, elle va venir teinter toutes les cases du jeu. Et on va se retrouver à ramasser, attirer toutes les situations qui vont venir nous refléter cette blessure-là. Et dès qu'on l'apaise, eh bien, tout le jeu va revenir neutre, si on peut dire, ou il va revenir lumineux et on va pouvoir avancer dans notre lumière, avancer dans notre essence, même notre mission de vie, même si on n'a aucune idée c'est quoi exactement la mission qu'on a à réaliser dans cette vie-ci. Dès qu'on sort de ce niveau de conscience de survie-là, puis de ces blessures-là, automatiquement, on vient de se réaligner sur notre voie divine.
Quelle est la blessure que toi tu as guérie ou que tu as mise de côté pour pouvoir laisser la maladie derrière toi, à ton avis, avec le recul aujourd'hui?
Avec le recul aujourd'hui, dans mon cas, je dirais que j'avais le package au complet. Donc, personnellement, j'ai dû travailler vraiment avec les 7 blessures. Donc, autant l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, la dévalorisation et l'abus. Si j'avais à choisir une, je ne sais même pas que je choisirais parce que quand je pense aux 7, je suis capable vraiment de voir des situations très spécifiques. Et si je voulais en parler aujourd'hui et puis vraiment, j'ai dû marcher mon chemin avec les 7 et c'est ce qui me donne possiblement cette conviction-là de voir à quel point quand les blessures sont actives, ça a un impact majeur dans toutes les sphères de notre vie au complet.
Donc, on clôture la guérison. Juste une dernière question. Ça a mis combien de temps
Oui.
pour que les médecins puissent voir dans ton sang que c'était terminé, cette maladie dégénérative?
Ça, c'est en 2014. Ben, ça a dû prendre un bon 20 ans.
20 ans. Voilà, la patience. Des fois, on demande des choses. Ça n'arrive pas tout de suite. Pour avoir la confirmation, pour que ça se fasse, il faut laisser le temps au temps. Ça, c'était pour la partie guérison. Moi, j'ai expérimenté des choses grâce à ton livre au niveau du blocage. En fait, je me suis rendu compte simplement quand on prend conscience d'un blocage que l'on a, ça se débloque. Et c'est comme ça que, en fait, on arrive à réouvrir des portes qui étaient complètement fermées auparavant sur certains sujets de nos vies. Tu l'as dit tout à l'heure, être tout le temps quitté ou tout le temps quitter quelqu'un, des choses qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Toi, ton livre, il peut vraiment aider beaucoup de monde parce que toi, tu parles carrément argent. T'as pas peur de parler de ça. Or, c'est un sujet qui est parfois tabou aussi. Comment peut-on faire pour ne pas être découragé par ces fameux blocages économiques qui sont d'actualité en plus?
Effectivement, c'est sûr que si on se met à suivre tout ce qui se passe dans les nouvelles, on ne fait que baisser son taux vibratoire et on va basculer dans le monde des peurs et dans le niveau de conscience de survie auquel j'ai fait référence tantôt. Donc, on doit vraiment tout mettre en œuvre pour maintenir notre niveau de conscience vraiment dans le succès, dans le service, dans la contribution, puis vibrer la joie. La joie est un des taux vibratoires les plus élevés. Alors, tout ce qu'on peut faire pour vibrer la joie, c'est extrêmement essentiel actuellement. Et avoir un mindset, donc un état d'esprit qui est vraiment focusé sur l'abondance, alors que la majorité des gens vont avoir un état d'esprit qui va être beaucoup plus limité, qui va être beaucoup plus sur les peurs, sur l'insécurité, alors que si on veut vraiment attirer l'abondance financière, on doit vibrer cette abondance. Là, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas le contrôle sur les événements extérieurs, ni actuellement, ni en tout temps. Alors, à partir de là, tout ce qu'on a, ce sur quoi on a le plus de contrôle, c'est vraiment sur nous. Et c'est là qu'on a besoin de travailler.
Tu parles souvent de vibrer, vibrer l'amour, vibrer la joie, vibrer l'abondance, vibrer l'harmonie. Et c'est vrai que on ne doit pas justement rester dans tout ce qui nous fait du mal. On doit combattre cela par une pensée positive et par une projection positive. Et c'est comme ça qu'on amène le positif dans sa vie. Ça, c'est du développement personnel pur et dur. Et c'est vrai que toi, tu le dis, tu as beaucoup de clientes pour qui ça fonctionne. Tu as d'ailleurs une citation dans ton livre que j'adore, qui fait complètement référence à ce que tu viens de dire, qui dit « La seule chose sur laquelle vous avez réellement le pouvoir sur votre vie, c'est vous. » Ce qui veut dire que, effectivement, on ne peut pas changer l'actualité, on ne peut pas changer certains faits, on doit juste les accepter. Et toi, donc, tu rajouterais derrière « On doit surtout projeter correctement les choses ». pour débloquer les choses?
En fait, on a besoin de travailler sur nous comme personne, mais aussi sur nous comme valeur, parce que l'argent, outre les situations extérieures qui peuvent se passer, le revenu que vous avez actuellement est vraiment le résultat de votre valeur, de votre propre perception de votre valeur. Donc, une personne qui a une perception qu'elle ne vaut pas grand-chose, le revenu va être correspondant à pas grand-chose. Si la personne croit qu'elle vaut 100 000, eh bien, elle va attirer dans la matière un revenu correspondant aux 100 000. Et ça, peu importe les circonstances extérieures, parce que le revenu est vraiment en lien avec la valeur. Et donc, l'univers va automatiquement va nous envoyer la somme en question pour refléter cette valeur-là.
Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est très, très difficile d'arriver à projeter les choses avec autant d'obstination et autant de croyances, finalement, d'affirmations, de pensées. Tu vois les résultats dans ta vie depuis combien de temps?
En fait, ben, j'y vois depuis plusieurs années. Je dirais que c'est plus qu'une projection positive parce qu'il y a eu longtemps les affirmations dans une certaine époque où est-ce que c'était les affirmations qui avaient la cote populaire pour se développer au niveau personnel. Mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre de vraiment incarner dans chacune de nos cellules. Donc, oui. On parle d'une réelle transformation pour laquelle il y a beaucoup de travail qui a été fait en arrière-plan. Et donc, il y a des outils qui doivent être mis en place, qui doivent être utilisés au quotidien et à partir de là, c'est un des ingrédients sera la projection, un autre ingrédient sera les blessures d'âme, un autre ingrédient qui est une de mes grandes révélations, ce sont les archétypes financiers sacrés. Et personnellement, les archétypes financiers sacrés, c'est des genres de personnages qu'on peut porter à l'intérieur de nous si on veut. Exemple, je vais vous donner, c'est super simple à comprendre, Mère Teresa. La personne qui a cet avatar-là, entre guillemets, eh bien, elle va vouloir sauver le monde et aura une très faible perception de sa propre valeur. Donc, c'est très rare des mères Teresa qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles vont tout donner, c'est tout ce qu'elles ont. Et ça, c'est un des archétypes financiers sacrés. Son vrai nom, c'est la nourricière. Et quand on met la nourricière dans sa lumière, eh bien, elle va devenir une enseignante hors pair qui va avoir une école, qui va enseigner aux autres. Et à partir de là, l'argent va rentrer parce qu'elle est alignée avec son archétype financier sacré. Si elle reste dans son... Si elle s'en va dans l'ombre, si on veut, dans son côté Mère Teresa, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et ces archétypes financiers-là, c'est une certification que moi, j'ai eue il y a quelques années déjà. Et ça a été une révélation quand j'ai commencé à travailler avec eux. C'est ce qui a eu le plus d'impact rapidement dans ma vie. Et je peux dire que ça doit faire maintenant 5 ans, pas loin de 5 ans que je travaille avec les archétypes. Et ma vie en 5 ans a changé à la vitesse de la lumière comparativement aux 25 années passées.
Oui, tu en parles dans ton livre. Hein. Tu parles vraiment de ton évolution financière. Donc maintenant, tu es coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. Tu aides les entrepreneurs à être 100% alignés, 100% assumés. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour lire ce livre. Moi qui ne le suis pas, ça m'a donné envie de devenir entrepreneur. voilà, j'ai pas encore tout à fait compris certaines choses. Moi, j'ai encore un chemin à faire. Je n'ai que 37 ans et voilà, je ne suis pas du tout à ton niveau, chère Isabelle. Mais je te remercie en tout cas pour tous ces outils que tu nous apportes et j'ai vraiment hâte de lire ton deuxième livre. Si tu devais nous donner une citation là pour clôturer ton portrait aujourd'hui, le mantra qui pourrait t'inspirer et inspirer les autres.
Le mantra est en ce temps, c'est ce temps spécial dans lequel on vit, c'est vraiment à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, si je suis là pour accomplir le plus grand plan que le Dieu a prévu, mais c'est de telle façon, mais c'est à la grâce de Dieu, c'est ce que je veux faire. Et si demain, c'est autre chose que je dois faire pour servir encore plus de gens, c'est ce que je ferai.
Très beau. C'est magnifique. Oui. Et être reconnaissant aussi chaque jour pour tout ce qui va bien, ça aussi, ça peut aider tous les jours à vivre mieux.
Oui, être dans la gratitude pour tout, oui, et vibrer la joie.
Merci Isabelle. Porte-toi bien.
Ça m'a fait plaisir, Nancy. Merci infiniment.
Je t'envoie plein d'ondes positives et merci pour toutes les tiennes. Continue comme ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être à l'écoute. Merci pour vos nombreux retours que j'apprécie beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai envie de vous dire, continuons à vibrer positif pour nous et pour les autres. Et puis à la semaine prochaine.